Chapitre 4. Les nuées du sanctuaire. Il y a des spectacles auxquels coopèrent toutes les matérielles magnificences dont dispose l'homme. Des nations d'esclaves et de plongeurs sont allées chercher dans le sable des mers, aux entrailles des rochers, ces perles et ces diamants qui parent les spectateurs. Transmises d'héritage en héritage, ces splendeurs ont brillé sur tous les fronts couronnés et feraient la plus fidèle des histoires humaines si elles prenaient la parole. Ne connaissent-elles pas les douleurs et les joies des grands comme celles des petits? Elles ont été portées partout. Elles ont été portées avec orgueil dans les fêtes, portées avec désespoir chez l'usurier, emportées dans le sang et le pillage, transportées dans les chefs-d'œuvre enfantés par l'art pour les garder. Excepté la perle de Cléopâtre, aucune d'elles ne s'est perdue. Les grands, les heureux, sont là réunis et voient couronner un roi dont la parure est le produit de l'industrie des hommes, mais qui dans sa gloire est vêtu d'une pourpre moins parfaite que ne l'est celle d'une simple fleur des champs. Ces fêtes splendides de lumière, enceintes de musique, où la parole de l'homme essaie à tonner, tous ces triomphes de sa main, une pensée, un sentiment, les écrase. L'esprit peut rassembler autour de l'homme et dans l'homme de plus vives lumières, lui faire entendre de plus mélodieuses harmonies, asseoir sur les nuées de brillantes constellations qui l'interrogent. Le cœur peut plus encore. L'homme peut se trouver face à face avec une seule créature et trouver dans un seul mot, dans un seul regard, un fait si lourd à porter, d'un éclat si lumineux, d'un son si pénétrant, qu'il succombe et s'agenouille. Les plus réelles magnificences ne sont pas dans les choses, elles sont en nous-mêmes. Pour le savant, un secret de science n'est-il pas un monde entier de merveilles? Les trompettes de la force, les brillants de la richesse, la musique de la joie, un immense concours d'hommes accompagne-t-il sa fête? Non, il va dans quelque réduite obscure, où souvent un homme pâle et souffrant lui dit un seul mot à l'oreille. Ce mot, comme une torche jetée dans un souterrain, lui éclaire les sciences, toutes les idées humaines, habillé des plus attrayantes formes qu'ait inventé le mystère, entourait un aveugle assis dans la fange au bord d'un chemin. Les trois mondes, le naturel, le spirituel et le divin, avec toutes leurs sphères, se découvraient à un pauvre proscrit florentin. Il marchait accompagné des heureux et des souffrants, de ceux qui priaient et de ceux qui criaient, des anges et des damnés. Quand l'envoyé de Dieu, qui savait et pouvait tout, apparut à trois de ses disciples, ce fut un soir à la table commune de la plus pauvre des auberges. En ce moment, la lumière éclata, brisa les formes matérielles, éclaira les facultés spirituelles. Ils le virent dans sa gloire, et la terre ne tenait déjà plus à leurs pieds que comme une sandale qui s'en détachait. Monsieur Baker, Wilfrid et Mina se sentaient agités de crainte en allant chez l'être extraordinaire qu'ils s'étaient proposé d'interroger. Pour chacun d'eux, le château suédois agrandi comportait un spectacle gigantesque, semblable à ceux dont les masses et les couleurs sont si savamment, si harmonieusement disposés par les poètes, et dont les personnages, acteurs imaginaires pour les hommes, sont réels pour ceux qui commencent à pénétrer dans le monde spirituel. Sur les gradins de ce colisée, M. Baker asseyait les grises légions du doute, ses sombres idées, ses vicieuses formules de dispute. Il y convoquait les différents mondes philosophiques et religieux qui se combattent et qui tous apparaissent sous la forme d'un système, décharné comme le temps configuré par l'homme. Vieillard qui d'une main lève la faux et dans l'autre emporte un grêle univers, l'univers humain. Wilfrid y conviait ses premières illusions et ses dernières espérances. Il y faisait siéger la destinée humaine et ses combats, la religion et ses dominations victorieuses. Mina y voyait confusément le ciel par une échappée. L'amour lui relevait un rideau brodé d'images mystérieuses, et les sons harmonieux qui arrivaient à ses oreilles redoublaient sa curiosité. Pour eux, cette soirée était donc ce que le souper fut pour les trois pèlerins dans Emmaüs, ce que fut une vision pour Dante, une inspiration pour Homère. Pour eux, les trois formes du monde révélées, des voiles déchirés, des incertitudes dissipées, des ténèbres éclaircies. L'humanité dans tous ses modes et attendant la lumière ne pouvait être mieux représentée que par cette jeune fille, par cet homme et par ces deux vieillards, dont l'un était assez savant pour douter, dont l'autre était assez ignorant pour croire. Jamais aucune scène ne fut ni plus simple en apparence, ni plus vaste en réalité. Quand ils entrèrent, conduits par le vieux David, ils trouvèrent Séraphita debout devant la table, sur laquelle étaient servies différentes choses, dont se compose un thé, collation qui supplée dans le nord aux joies du vin, réservée pour les pays méridionaux. Certes, rien n'annonçait en elle ou en lui. Cet être avait l'étrange pouvoir d'apparaître sous deux formes distinctes. Rien donc ne trahissait les différentes puissances dont elle disposait. Vulgairement occupée du bien-être de ses trois hôtes, Séraphita recommandait à David de mettre du bois dans le poêle. « Bonjour, mes voisins, » dit-elle. « Mon cher monsieur Becker, vous avez bien fait de venir. Vous me voyez vivante pour la dernière fois, peut-être. Cet hiver m'a tuée. Asseyez-vous donc, monsieur, » dit-elle à Wilfrid. « Et toi, Mina, mets-toi là, » dit-il en lui montrant un fauteuil près de lui. « Tu as apporté ta tapisserie à la main ? En as-tu trouvé le point ? Le dessin en est fort joli. Pour qui est-ce ? Pour ton père ou pour monsieur ? Dit-elle en se tournant vers Wilfrid. Ne lui laisserons-nous point, avant son départ, un souvenir des filles de la Norvège ? Vous avez donc souffert encore hier ? Dit Wilfrid. Ce n'est rien, dit-elle. Cette souffrance me plaît. Elle est nécessaire pour sortir de la vie. La mort ne vous effraie donc point, dit en souriant M. Baker qui ne la croyait pas malade. Non, cher pasteur, il est deux manières de mourir. Aux uns la mort est une victoire, aux autres elle est une défaite. Vous croyez avoir vaincu? Dit Mina. Je ne sais, répondit-elle. Peut-être ne sera-ce qu'un pas de plus. La splendeur lactée de son front s'altéra, ses yeux se voilèrent sous ses paupières lentement déroulées. Ce simple mouvement fit les trois curieux émus et immobiles. Monsieur Baker fut le plus hardi. Chère fille, dit-il, vous êtes la candeur même. Mais vous êtes aussi d'une bonté divine. Je désirerais de vous, ce soir, autre chose que les friandises de votre thé. S'il faut en croire certaines personnes, vous savez des choses extraordinaires. Mais s'il en est ainsi, ne serait-il pas charitable à vous de dissiper quelques-uns de nos doutes ? Ah ! Reprit-elle en souriant. Je marche sur les nuées, je suis au mieux avec les gouffres du fjord. La mer est une monture à laquelle j'ai mis un frein. Je sais où croît la fleur qui chante, où rayonne la lumière qui parle, où brillent et vivent les couleurs qui embaument. J'ai l'anneau de Salomon. Je suis une fée. Je jette mes ordres au vent qui les exécute. En esclave soumis, je vois les trésors en terre. Je suis la Vierge au devant de laquelle volent les perles. Et nous allons sans danger sur le Falberg, dit Mina qui l'interrompit. Et toi aussi, répondit l'être en lançant à la jeune fille un regard lumineux qui la remplit de trouble. Si je n'avais pas la faculté de lire à travers vos fronts le désir qui vous amène, serais-je ce que vous croyez que je suis ? Dit-elle en les enveloppant tous trois de son regard envahisseur, à la grande satisfaction de David qui se frotta les mains en s'en allant. « Ah ! » reprit-elle après une pause. Vous êtes venus animés tous d'une curiosité d'enfant. Vous vous êtes demandé, mon pauvre monsieur Becker, s'il est possible à une fille de 17 ans de savoir un des 1000 secrets que les savants cherchent le nez en terre au lieu de lever les yeux vers le ciel. Si je vous disais comment et par où la plante communique à l'animal, vous commenceriez à douter de vos doutes. Vous avez comploté de m'interroger, avouez-le. Oui, chère Séraphita, répondit Wilfrid. Et ce désir n'est-il pas naturel à des hommes? Voulez-vous donc ennuyer cet enfant? Dit-elle en posant la main sur les cheveux de Mina par un geste caressant. La jeune fille leva les yeux et parut vouloir se fondre en lui. La parole est le bien de tous, reprit gravement l'être mystérieux. Malheur à qui garderait le silence au milieu du désert en croyant n'être entendu de personne. Tout parle et tout écoute ici-bas. La parole meut les mondes. Je souhaite, monsieur Becker, ne rien dire en vain. Je connais les difficultés qui vous occupent le plus. Ne serait-ce pas un miracle que d'embrasser tout d'abord le passé de votre conscience ? Eh bien, le miracle va s'accomplir. Écoutez-moi. Vous ne vous êtes jamais avoué vos doutes dans toute leur étendue. Moi seul, inébranlable dans ma foi, je puis vous les dire et vous effrayer de vous-même. Vous êtes du côté le plus obscur du doute. Vous ne croyez pas en Dieu et toute chose ici-bas devient secondaire pour qui s'attaque au principe des choses. Abandonnons les discussions creusées sans fruit par de fausses philosophies. Les générations spiritualistes n'ont pas fait moins de 20 efforts pour nier la matière que n'en ont tenté les générations matérialistes pour nier l'esprit. Pourquoi ces débats? L'homme n'offre-t-il pas à l'un et à l'autre système des preuves irrécusables? Ne se rencontre-t-il pas en lui des choses matérielles et des choses spirituelles? Un fou seul peut se refuser à voir un fragment de matière dans le corps humain. En le décomposant, vos sciences naturelles y trouvent peu de différence entre ses principes et ceux des autres animaux. L'idée que produit en l'homme la comparaison de plusieurs objets ne semble non plus à personne être dans le domaine de la matière. Ici, je ne me prononce pas. Il s'agit de vos doutes et non de mes certitudes. À vous, comme à la plupart des penseurs, les rapports que vous avez avec la faculté de découvrir entre les choses dont la réalité vous est attestée par vos sensations, ne semble point devoir être matériel. L'univers naturel des choses et des êtres se termine donc, en l'homme, par l'univers surnaturel des similitudes, ou des différences qu'il aperçoit entre les innombrables formes de la nature, relations si multipliées qu'elles paraissent infinies. Car si, jusqu'à présent, nul n'a pu dénombrer les seules créations terrestres, quel homme pourrait en énumérer les rapports? La fraction que vous en connaissez n'est-elle pas, à leur somme, totale, comme un nombre est à l'infini? Ici, vous tombez déjà dans la perception de l'infini, qui certes vous fait concevoir un monde purement spirituel. Ainsi, l'homme présente une preuve suffisante de ces deux modes, la matière et l'esprit. En lui vient aboutir un visible univers fini, en lui commence un univers invisible et infini, deux mondes qui ne se connaissent pas, Les cailloux du fjord ont-ils l'intelligence de leur combinaison? Ont-ils la conscience des couleurs qu'ils présentent aux yeux de l'homme? Entendent-ils la musique des flots qui les caressent? Franchissons sans le sonder l'abîme que nous offre l'union d'un univers matériel et d'un univers spirituel, une création visible, pondérable, tangible, terminée par une création intangible, invisible, impondérable, toutes deux complètement dissemblables, séparées par le néant, réunies par des accords incontestables, rassemblées dans un être qui tient et de l'une et de l'autre. Confondons en un seul monde ces deux mondes inconciliables pour vos philosophies et conciliés par le fait. Quelque abstraite que l'homme la suppose, la relation qui lie deux choses entre elles comporte une empreinte. Où? Sur quoi? Nous ne sommes pas à rechercher à quel point de subtilisation peut arriver la matière. Si telle était la question, je ne vois pas pourquoi celui qui a cousu par des rapports physiques les astres à d'incommensurables distances pour s'en faire un voile n'aurait pu créer des substances pensantes, ni pourquoi vous lui interdiriez la faculté de donner un corps à la pensée. Donc votre invisible univers moral et votre visible univers physique constituent une seule et même matière. Nous ne séparerons point les propriétés et les corps, ni les objets et les rapports. Tout ce qui existe, ce qui nous presse et nous accable au-dessus, au-dessous de nous, devant nous, en nous, ce que nos yeux et nos esprits aperçoivent, toutes ces choses nommées et innommées composeront, afin d'adapter le problème de la création à la mesure de votre logique, un bloc de matière fini. S'il était infini, Dieu n'en serait plus le maître. Ici, selon vous, cher pasteur, de quelque façon qu'on veuille mêler un Dieu infini à ce bloc de matière finie, Dieu ne saurait exister avec les attributs dont il est investi par l'homme. En le demandant au fait, il est nul. En le demandant au raisonnement, il sera nul encore. Spirituellement et matériellement, Dieu devient impossible. Croire, reprit Séraphita de sa voix de femme, car l'homme venait de parler. Croire est un don. Croire, c'est sentir. Pour croire en Dieu, il faut sentir Dieu. Ce sens est une propriété lentement acquise par l'être, comme s'acquièrent les étonnants pouvoirs que vous admirez dans les grands hommes, chez les guerriers, les artistes et les savants, chez ceux qui savent, chez ceux qui produisent, chez ceux qui agissent. La pensée, faisceau des rapports que vous apercevez entre les choses, est une langue intellectuelle qui s'apprend, n'est-ce pas? La croyance, faisceau des vérités célestes, est également une langue, mais aussi supérieure à la pensée que la pensée est supérieure à l'instinct. Cette langue s'apprend. Le croyant répond par un seul cri, par un seul geste. La foi lui met aux mains une épée flamboyante avec laquelle il tranche. Il éclaire tout. Le voyant ne redescend pas du ciel. Il le contemple et se tait. Il est une créature qui croit et voit, qui sait et peut, qui aime, prie et attend, résignée, aspirant au royaume de la lumière. Elle n'a ni le dédain du croyant, ni le silence du voyant. Elle écoute et répond. Pour elle, le doute des siècles ténébreux n'est pas une arme meurtrière, mais un fil conducteur. Elle accepte le combat sur toutes les formes. Elle plie sa langue à tous les langages. Elle ne s'emporte pas. Elle plaint. Elle ne condamne ni ne tue personne. Elle sauve et console. Elle n'a pas l'acerbité de l'agresseur, mais la douceur et la ténuité de la lumière qui pénètre, échauffe, éclaire tout. À ses yeux, le doute n'est ni une impiété, ni un blasphème, ni un crime, mais une transition, d'où l'homme retourne sur ses pas dans les ténèbres, ou s'avance vers la lumière. Ainsi donc, cher pasteur, raisonnons. Vous ne croyez pas en Dieu. Pourquoi? Dieu, selon vous, est incompréhensible, inexplicable. D'accord? Je ne vous dirai pas que comprendre Dieu tout entier, ce serait être Dieu. Je ne vous dirai pas que vous niez ce qui vous semble inexplicable, afin de me donner le droit d'affirmer ce qui me paraît croyable. Il est pour vous un fait évident qui se trouve en vous-même. En vous, la matière aboutit à l'intelligence. Et vous pensez que l'intelligence humaine aboutirait aux ténèbres, au doute, au néant. Si Dieu vous semble incompréhensible, inexplicable, avouez, du moins, que vous voyez, en toute chose purement physique, un conséquent et sublime ouvrier. Pourquoi sa logique s'arrêterait-elle à l'homme, sa création la plus achevée? Si cette question n'est pas convaincante, elle exige au moins quelques méditations. Si vous niez Dieu, heureusement, afin d'établir vos doutes, vous reconnaissez des faits à double tranchant qui tuent tout aussi bien vos raisonnements que vos raisonnements tuent Dieu. Nous avons également admis que la matière et l'esprit étaient deux créations qui ne se comprenaient point l'une l'autre. Que le monde spirituel se composait de rapports infinis auxquels donnait lieu le monde matériel fini. Que si nul sur la terre n'avait pu s'identifier par la puissance de son esprit avec l'ensemble des créations terrestres, à plus forte raison, nul ne pouvait s'élever à la connaissance des rapports que l'esprit aperçoit entre ses créations. Ainsi déjà nous pourrions en finir d'un seul coup, en vous déniant la faculté de comprendre Dieu, comme vous déniez aux cailloux du fjord la faculté de se compter, de se voir. Savez-vous s'ils ne nient pas l'homme, eux, quoique l'homme les prenne pour s'en bâtir sa maison? Il est un fait qui vous écrase. L'infini, si vous le sentez en vous, comment n'en admettez-vous pas les conséquences? Le fini peut-il avoir une entière connaissance de l'infini? Si vous ne pouvez embrasser les rapports qui, de votre aveu, sont infinis, comment embrasseriez-vous la fin éloignée dans laquelle ils se résument? L'ordre, dont la révélation est un de vos besoins, étant infini, votre raison bornée l'entendra-t-elle? Et ne demandez pas pourquoi l'homme ne comprend point ce qu'il peut percevoir, car il perçoit également ce qu'il ne comprend pas. Si je vous démontre que votre esprit ignore tout ce qui se trouve à sa portée, m'accorderez-vous qu'il lui soit impossible de concevoir ce qui la dépasse? N'aurais-je alors pas raison de vous dire l'un des termes sous lesquels Dieu périt au tribunal de votre raison doit être vrai, l'autre est faux. La création existant, vous sentez la nécessité d'une fin. Cette fin ne doit-elle pas être belle? Or, si la matière se termine en l'homme par l'intelligence, pourquoi ne vous contenteriez-vous pas de savoir que la fin de l'intelligence humaine est la lumière des sphères supérieures auxquelles est réservée l'intuition de ce Dieu qui vous semble être un problème insoluble? Les espèces qui sont au-dessous de vous n'ont pas l'intelligence des mondes, et vous l'avez. Pourquoi ne se trouverait-il pas au-dessus de vous des espèces plus intelligentes que la vôtre? Avant d'employer sa force à mesurer Dieu, l'homme ne devrait-il pas être plus instruit qu'il ne l'est sur lui-même? Avant de menacer les étoiles qui l'éclairent, avant d'attaquer les certitudes élevées, ne devrait-il pas établir les certitudes qui le touchent? Mais aux négations du doute, je dois répondre par des négations. Maintenant donc, je vous demande s'il est ici-bas quelque chose d'assez évident par soi-même à quoi je puisse ajouter foi. En un moment, je vais vous prouver que vous croyez fermement à des choses qui agissent et ne sont pas des êtres, qui engendrent la pensée et ne sont pas des esprits, à des abstractions vivantes que l'entendement ne saisit sous aucune forme, qui ne sont nulle part mais que vous trouvez partout, qui sont sans nom possible et que vous avez nommés, qui, semblables aux dieux de chair que vous vous figurez, périssent sous l'inexplicable, l'incompréhensible et l'absurde. Et je vous demanderai comment, adoptant ces choses, vous réservez vos doutes pour Dieu. Vous croyez au nombre, base sur laquelle vous asseyez l'édifice des sciences que vous appelez exact. Sans le nombre, plus de mathématiques. Eh bien, quel être mystérieux, à qui serait accordée la faculté de vivre toujours, pourrait achever de prononcer, et dans quel langage assez prompt dirait-il le nombre qui contiendrait les nombres infinis dont l'existence vous est démontrée par votre pensée? Demandez-le au plus beau des génies humains. Il serait 1000 ans assis au bord d'une table, la tête entre ses mains. Que vous répondrait-il? Vous ne savez ni où le nombre commence, ni où il s'arrête, ni quand il finira. Ici, vous l'appelez le temps. Là, vous l'appelez l'espace. Rien n'existe que par lui. Sans lui, tout serait une seule et même substance, car lui seul différencie et qualifie. Le nombre est à votre esprit ce qu'il est à la matière, un agent incompréhensible. En ferez-vous un Dieu? Est-ce un être? Est-ce un souffle émané de Dieu pour organiser l'univers matériel, où rien n'obtient sa forme que par la divisibilité qui est un effet du nombre? Les plus petites comme les plus immenses créations ne se distinguent-elles pas entre elles par leur quantité, par leur qualité, par leur dimension, par leur force, tous attributs enfantés par le nombre? L'infini des nombres est un fait prouvé pour votre esprit, dont aucune preuve ne peut être donnée matériellement. Le mathématicien vous dira que l'infini des nombres existe et ne se démontre pas. Dieu, cher pasteur, est un nombre doué de mouvement, qui se sent et ne se démontre pas, vous dira le croyant. Comme l'unité, il commence des nombres avec lesquels il n'a rien de commun. L'existence du nombre dépend de l'unité, qui, sans être un nombre, les engendre tous. Dieu, cher pasteur, est une magnifique unité qui n'a rien de commun avec ses créations et qui néanmoins les engendre. Convenez donc avec moi que vous ignorez aussi bien où commence ou finit le nombre, que vous ignorez où commence ou finit l'éternité créée. Pourquoi, si vous croyez au nombre, niez-vous Dieu? La création n'est-elle pas placée entre l'infini des substances inorganisées et l'infini des sphères divines, comme l'unité se trouve entre l'infini des fractions que vous nommez depuis peu les décimales et l'infini des nombres que vous nommez les entiers? Vous seul sur la terre comprenez le nombre, cette première marche du péristyle qui mène à Dieu, et déjà votre raison y trébuche. Eh quoi, vous ne vous pouvez ni mesurer la première abstraction que Dieu vous a livrée, ni la force qui organise le nombre? Ainsi, quand je vous dirai que l'univers n'est que nombre et mouvement, vous voyez que déjà nous parlerons un langage différent. Je comprends l'un et l'autre, et vous ne les comprenez point. Que serait-ce si j'ajoutais que le mouvement et le nombre sont engendrés par la parole? Ce mot, la raison suprême des voyants et des prophètes qui jadis entendirent ce souffle de Dieu sous lequel tomba saint Paul, vous vous en moquez? Vous, homme de qui, cependant, toutes les œuvres visibles, les sociétés, les monuments, les actes, les passions, procèdent de votre faible parole, et qui, sans le langage, ressembleriez à cette espèce si voisine du nègre, à l'homme des bois. Vous croyez donc fermement au nombre et au mouvement. Force et résultats inexplicables, incompréhensibles, à l'existence desquels je puis appliquer le dilemme qui vous dispensait naguère de croire en Dieu. Vous, si puissant raisonneur, ne me dispenserez-vous point de vous démontrer que l'infini doit être partout semblable à lui-même, et qu'il est nécessairement un. Dieu seul est infini, car certes il ne peut y avoir deux infinis. Si pour se servir de mots humains, quelque chose qui soit démontré ici-bas vous semble infini, soyez certain d'y entrevoir une des faces de Dieu. Poursuivons. Vous vous êtes approprié une place dans l'infini du nombre. Vous l'avez accommodé à votre taille, en créant, si toutefois vous pouvez créer quelque chose, l'arithmétique, base sur laquelle repose tout, même vos sociétés. De même que le nombre, la seule chose à laquelle ont cru vos soi-disant athées, organise les créations physiques. De même, l'arithmétique, emploi du nombre, organise le monde moral. Cette énumération devrait être absolue, comme tout ce qui est vrai en soi, mais elle est purement relative, elle n'existe pas absolument. Vous ne pouvez donner aucune preuve de sa réalité. D'abord, si cette numération est habile à chiffrer les substances organisées, elle est impuissante relativement aux forces organisantes, les unes étant infinies et les autres étant finies. L'homme qui conçoit l'infini par son intelligence ne saurait le manier dans son entier, sans quoi il serait Dieu. Votre numération appliquée aux choses finies et non à l'infini est donc vraie par rapport aux détails que vous percevez, mais fausse par rapport à l'ensemble que vous ne percevez point. Si la nature est semblable à elle-même dans les forces organisantes ou dans ses principes qui sont infinis, elle ne l'est jamais dans ses effets finis. Ainsi, vous ne rencontrez nulle part dans la nature deux objets identiques. Dans l'ordre naturel, deux et deux ne peuvent donc jamais faire quatre. Car il faudrait assembler des unités exactement pareilles, et vous savez qu'il est impossible de trouver deux feuilles semblables sur un même arbre, ni deux sujets semblables dans la même espèce d'arbre. Cet axiome de votre numération, faux dans la nature visible, est également faux dans l'univers invisible de vos abstractions, où la même variété a lieu dans vos idées, qui sont les choses du monde visible, mais étendues par leur rapport. Ainsi, les différences sont encore plus tranchées là que partout ailleurs. En effet, tout y étant relatif au tempérament, à la force, aux mœurs, aux habitudes des individus qui ne se ressemblent jamais entre eux, les moindres objets y représentent des sentiments personnels. Assurément, si l'homme a pu créer des unités, n'est-ce pas en donnant un poids et un titre égal à des morceaux d'or? Eh bien, vous pouvez ajouter le ducat du pauvre au ducat du riche et vous dire au trésor public que ce sont deux quantités égales, mais aux yeux du penseur, l'un est certes moralement plus considérable que l'autre, l'un représente un mois de bonheur, l'autre représente le plus éphémère caprice. Deux et deux ne font donc quatre que par une abstraction fausse et monstrueuse. La fraction n'existe pas non plus dans la nature. Où ce que vous nommez un fragment est une chose finie en soi. Mais n'arrive-t-il pas souvent, et vous en avez des preuves, que le centième d'une substance soit plus fort que ce que vous appelleriez l'entier? Si la fraction n'existe pas dans l'ordre naturel, elle existe encore bien moins dans l'ordre moral, où les idées et les sentiments peuvent être variés comme les espèces de l'ordre végétal, mais sont toujours entiers. La théorie des fractions est donc encore une insigne complaisance de votre esprit. Le nombre, avec ses infiniment petits et ses totalités infinies, est donc une puissance dont une faible partie vous est connue et dont la portée vous échappe. Vous vous êtes construit une chaumière dans l'infini des nombres. Vous l'avez ornée d'hiéroglyphes savamment rangés et peints et vous avez crié « Tout est là !» Du nombre pur, passons au nombre corporisé. Votre géométrie établit que la ligne droite est le chemin le plus court d'un point à un autre. Mais votre astronomie vous démontre que Dieu n'a procédé que par des courbes. Voici donc dans la même science deux vérités également prouvées. L'une par le témoignage de vos sens, agrandis du télescope, l'autre par le témoignage de votre esprit, mais dont l'une contredit l'autre. L'homme sujet à erreur, affirme l'une, et l'ouvrier des mondes, que vous n'avez encore pris nulle part en faute, la dément. Qui prononcera donc entre la géométrie rectiligne et la géométrie curviligne? Entre la théorie de la droite et la théorie de la courbe? si dans son œuvre, le mystérieux artiste, qui sait, arriver miraculeusement vite à ses fins, n'emploie la ligne droite que pour la couper à angle droit afin d'obtenir une courbe. L'homme lui-même ne peut jamais y compter. Le boulet que l'homme veut diriger en ligne droite marche par la courbe, et quand vous voulez sûrement atteindre un point dans l'espace, vous ordonnez à la bombe de suivre sa cruelle parabole. Aucun de vos savants n'a tiré cette simple induction que la courbe est la loi des mondes matériels, que la droite est celle des mondes spirituels. L'une est la théorie des créations finies, l'autre est la théorie de l'infini. L'homme ayant seul ici-bas la connaissance de l'infini peut seul connaître la ligne droite. Lui seul a le sentiment de la verticalité, placé dans un organe spécial. L'attachement pour les créations de la courbe ne serait-il pas chez certains hommes l'indice d'une impureté de leur nature, encore mariée aux substances matérielles qui nous engendrent? Et l'amour des grands esprits pour la ligne droite n'accuserait-il pas en eux un pressentiment du ciel? Entre ces deux lignes est un abîme, comme entre le fini et l'infini, comme entre la matière et l'esprit, comme entre l'homme et l'idée, entre le mouvement et l'objet ému, entre la créature et Dieu. Demandez à l'amour divin ses ailes, et vous franchirez cet abîme. Au-delà commence la révélation du Verbe. Nulle part, les choses que vous nommez matérielles ne sont sans profondeur. Les lignes sont les terminaisons de solidité qui comportent une force d'action que vous supprimez dans vos théorèmes, ce qui les rend faux par rapport au corps pris dans leur entier. De là cette constante destruction de tous les monuments humains que vous armez à votre insu de propriétés agissantes. La nature n'a que des corps. Votre science n'en combine que les apparences. Aussi la nature donne-t-elle à chaque pas des démentis à toutes vos lois. Trouvez-en une seule qui ne soit désapprouvée par un fait. Les lois de votre statique sont souffletées par mille accidents de la physique, car un fluide renverse les plus pesantes montagnes et vous prouve ainsi que les substances les plus lourdes peuvent être soulevées par des substances impondérables. Vos lois sur l'acoustique et l'optique sont annulées par les sons que vous entendez en vous-même pendant le sommeil, et par la lumière d'un soleil électrique dont les rayons vous accablent souvent. Vous ne savez pas plus comment la lumière se fait intelligence en vous que vous ne connaissez le procédé simple et naturel qui la change en rubis, en saphir, en opale, en émeraude, au cou d'un oiseau des Indes, tandis qu'elle reste grise et brune sur celui du même oiseau vivant sous le ciel nuageux de l'Europe, ni comment elle reste blanche ici, au sein de la nature polaire. Vous ne pouvez décider si la couleur est une faculté dont sont doués les corps ou si elle est un effet produit par la fusion de la lumière. Vous admettez l'amertume de la mer sans avoir vérifié si la mer est salée dans toute sa profondeur. Vous avez reconnu l'existence de plusieurs substances qui traversent ce que vous croyez être le vide. Substances qui ne sont saisissables sous aucune des formes affectées par la matière et qui se mettent en harmonie avec elle malgré tous les obstacles. Cela étant, vous croyez au résultat obtenu par la chimie, quoiqu'elle ne sache encore aucun moyen d'évaluer les changements opérés par le flux ou par le reflux de ces substances qui s'en vont ou viennent à travers vos cristaux et vos machines sur les filons insaisissables de la chaleur ou de la lumière, conduite, exportée par les affinités du métal ou du silex vitrifié. Vous n'obtenez que des substances mortes, d'où vous avez chassé la force inconnue qui s'oppose à ce que tout se décompose ici-bas, et dont l'attraction, la vibration, la cohésion et la polarité ne sont que des phénomènes. la vie est la pensée des corps. Ils ne sont, eux, qu'un moyen de la fixer, de la contenir dans sa route. Si les corps étaient des êtres vivants par eux-mêmes, ils seraient cause et ne mourraient pas. Quand un homme constate les résultats du mouvement général que se partagent toutes les créations suivant leur faculté d'absorption, vous le proclamez savant par excellence, comme si le génie consistait à expliquer ce qui est. Le génie doit jeter les yeux au-delà des effets. Tous vos savants riraient si vous leur disiez « Il est des rapports si certains entre deux êtres dont l'un serait ici, l'autre à Java, qu'ils pourraient au même instant éprouver la même sensation, en avoir la conscience, s'interroger et se répondre sans erreur. » Néanmoins, il est des substances minérales qui témoignent de sympathie aussi lointaine que celle dont je parle. Vous croyez à la puissance de l'électricité fixée dans l'aimant, et vous niez le pouvoir de celle que dégage l'âme. Selon vous, la lune, dont l'influence sur les marées vous paraît prouvée, n'en a aucune sur les vents, ni sur les végétations, ni sur les hommes. Elle remue la mer et ronge le ver, mais elle doit respecter les maladies. Elle a des rapports certains avec une moitié de l'humanité, mais elle ne peut rien sur l'autre. Voilà vos plus riches certitudes. Allons plus loin. Vous croyez à la physique? Mais votre physique commence, comme la religion catholique, par un acte de foi. Ne reconnaît-elle pas une force externe distincte des corps et auxquels elle communique le mouvement? Vous en voyez les effets, mais qu'est-ce? Où est-elle? Quelle est son essence? Sa vie? A-t-elle des limites? Et vous niez Dieu? Ainsi, la plupart de vos axiomes scientifiques, vrais par rapport à l'homme, sont faux par rapport à l'ensemble. La science est une et vous l'avez partagée. Pour savoir le sens vrai des lois phénoménales, ne faudrait-il pas connaître les corrélations qui existent entre les phénomènes et la loi d'ensemble? En toute chose, il est une apparence qui frappe vos sens. Sous cette apparence, il se meut une âme. Il y a le corps et la faculté. Où enseignez-vous l'étude des rapports qui lient les choses entre elles? Nulle part! Vous n'avez donc rien d'absolu? Vos thèmes les plus certains reposent sur l'analyse des formes matérielles dont l'esprit est sans cesse négligé par vous. Il est une science élevée que certains hommes entrevoient trop tard, sans oser l'avouer. Ces hommes ont compris la nécessité de considérer les corps, non seulement dans leurs propriétés mathématiques, mais encore dans leur ensemble, dans leurs affinités occultes. Le plus grand d'entre vous a deviné, sur la fin de ses jours, que tout était cause et effet, réciproquement. Que les mondes visibles étaient coordonnés entre eux et soumis à des mondes invisibles. Il a gémi d'avoir essayé d'établir des préceptes absolus. En comptant ces mondes, comme des grains de raisin semés dans l'éther, il en avait expliqué la cohérence par les lois de l'attraction planétaire et moléculaire. Vous avez salué cet homme. Eh bien, je vous le dis, il est mort au désespoir. En supposant égales les forces centrifuges et centripètes qu'il avait inventées pour se rendre raison de l'univers s'arrêtait, et il admettait le mouvement dans un sens indéterminé néanmoins. Mais en supposant ces forces inégales, la confusion des mondes s'ensuivait aussitôt. Ces lois n'étaient donc point absolues. Il existait un problème encore plus élevé. La liaison des astres entre eux et l'action centripète de leur mouvement interne ne l'a donc pas empêché de chercher le cep d'où pendait sa grappe. Le malheureux, plus il agrandissait l'espace, plus lourd devenait son fardeau. Il vous a dit comment il y avait équilibre entre les parties. Mais où allait le tout? Il contemplait l'étendue, infinie aux yeux de l'homme, rempli par ces groupes de mondes dont une portion minime est accusée par notre télescope, mais dont l'immensité se révèle par la rapidité de la lumière. Cette contemplation sublime lui a donné la perception des mondes infinis, qui, plantés dans cet espace comme des fleurs dans une prairie, naissent comme des enfants, croissent comme des hommes, meurent comme des vieillards, vivent en s'assimilant dans leur atmosphère les substances propres à les alimenter, qui ont un centre et un principe de vie, qui se garantissent les uns des autres par une aire, qui, semblables aux plantes, absorbent et sont absorbées, qui composent un ensemble doué de vie, ayant sa destinée. À cet aspect, cet homme a tremblé. Il savait que la vie est produite par l'union de la chose avec son principe, que la mort ou l'inertie, qu'enfin la pesanteur, est produite par une rupture entre un objet et le mouvement qui lui est propre. Alors il a pressenti le craquement de ces mondes, abîmés si Dieu leur retirait sa parole. Il s'est mis à chercher dans l'Apocalypse les traces de cette parole. Vous l'avez cru fou, sachez-le donc. Il cherchait à se faire pardonner son génie. Wilfried, vous êtes venu pour me prier de résoudre des équations, de m'enlever sur un nuage de pluie, de me plonger dans le fjord et de reparaître en cygne. Si la science ou les miracles étaient la fin de l'humanité, Moïse vous aurait légué le calcul des fluxions, Jésus-Christ vous aurait éclairé les obscurités de vos sciences, ses apôtres vous auraient dit d'où sortent ces immenses traînées de gaz ou de métaux en fusion, attachés à des noyaux qui tournent pour se solidifier en cherchant une place dans l'éther et qui entrent quelquefois violemment dans un système quand elles se combinent avec un astre, le heurtent et le brisent par leur choc ou le détruisent par l'infiltration de leur gaz mortel. Au lieu de vous faire vivre en Dieu, saint Paul vous eût expliqué comment la nourriture est le lien secret de toutes les créations et le lien évident de toutes les espèces animées. Aujourd'hui, le plus grand miracle serait de trouver le carré égal au cercle. Problème que vous jugez impossible et qui sans doute est résolu dans la marche des mondes par l'intersection de quelques lignes mathématiques dont les enroulements apparaissent à l'œil des esprits parvenus aux sphères supérieures. Dieu n'aurait-il pas été injuste en témoignant sa puissance à des générations, en refusant ses témoignages à d'autres? La verge d'Airain appartient à tous. Ni Moïse, ni Jacob, ni Zoroastre, ni Paul, ni Pythagore, ni Swedenborg, ni les plus obscurs messagers, ni les plus éclatants prophètes de Dieu n'ont été supérieurs à ce que vous pouvez être. Seulement il est pour les nations des heures où elles ont la foi. Si la science matérielle devait être le but des efforts humains, avouez-le, les sociétés, ces grands foyers où les hommes se sont rassemblés, seraient-ils toujours providentiellement dispersés? Si la civilisation était le but de l'espèce, l'intelligence périrait-elle? Resterait-elle purement individuelle? La grandeur de toutes les nations qui furent grandes était basée sur des exceptions. L'exception cessée, morte fut la puissance. Les voyants, les prophètes, les messagers n'auraient-ils pas mis la main à la science au lieu de l'appuyer sur la croyance? N'aurait-il pas frappé sur vos cerveaux au lieu de toucher à vos cœurs? Tous sont venus pour pousser les nations à Dieu. Tous ont proclamé la voie sainte en vous disant les simples paroles qui conduisent au royaume des cieux. Tous embrasés d'amour et de foi, tous inspirés de cette parole qui plane sur les populations, les enserre, les anime et les fait lever, ne l'employaient à aucun intérêt humain. Vos grands génies, des poètes, des rois, des savants sont engloutis avec leur ville et le désert les a revêtus de ses manteaux de sable, tandis que les noms de ces bons pasteurs, bénis encore, surnagent au désastre. Nous ne pouvons nous entendre sur aucun point. Nous sommes séparés par des abîmes. Vous êtes du côté des ténèbres. Et moi, je vis dans la vraie lumière. Est-ce cette parole que vous avez voulu ? Je la dis avec joie, elle peut vous changer. Sachez-le donc, il y a les sciences de la matière et les sciences de l'esprit. Là où vous voyez des corps, moi je vois des forces, qui tendent les unes vers les autres par un mouvement générateur. Pour moi, le caractère des corps est l'indice de leurs principes et le signe de leurs propriétés. Ces principes engendrent des affinités qui vous échappent et qui sont liées à des centres. Les différentes espèces où la vie est distribuée sont des sources incessantes qui correspondent entre elles. À chacune sa production spéciale. L'homme est effet et cause. Il est alimenté, mais il alimente à son tour. En nommant Dieu le Créateur, vous le rapetissez. Il n'a créé, comme vous le pensez, ni les plantes, ni les animaux, ni les astres. Pouvait-il procéder par plusieurs moyens ? N'a-t-il pas agi par l'unité de composition ? Aussi a-t-il donné des principes qui devaient se développer, selon sa loi générale, au gré des milieux où ils se trouveraient. Donc une seule substance et le mouvement, une seule plante, un seul animal, mais des rapports continus. En effet, toutes les affinités sont liées par des similitudes contiguës, et la vie des mondes est attirée vers des centres par une aspiration affamée, comme vous êtes poussés tous par la faim à vous nourrir. Pour vous donner un exemple des affinités liées à des similitudes, loi secondaire sur laquelle reposent les créations de votre pensée, la musique, art céleste, et la mise en œuvre de ce principe. N'est-elle pas un ensemble de sons harmonisés par le nombre ? Le son n'est-il pas une modification de l'air, comprimé, dilaté, répercuté ? Vous connaissez la composition de l'air ? Azote, oxygène et carbone. Comme vous n'obtenez pas de son dans le vide, il est clair que la musique et la voix humaine sont le résultat de substances chimiques organisées qui se mettent à l'unisson des mêmes substances préparées en vous par votre pensée, coordonnées au moyen de la lumière, la grande nourrice de votre globe. Avez-vous pu contempler les amas de nitre déposés par les neiges ? Avez-vous pu voir les décharges de la foudre ? Et les plantes aspirant dans l'air, les métaux qu'elles contiennent, sans conclure que le soleil met en fusion et distribue la subtile essence qui nourrit tout ici-bas. Comme l'a dit Swedenborg, la terre est un homme. Vos sciences actuelles, ce qui vous fait grand à vos propres yeux, sont des misères auprès des lueurs dont sont inondés les voyants. Cessez de m'interroger, nos langages sont différents. Je me suis un moment servi du vôtre pour vous jeter un éclair de foi dans l'âme, pour vous donner un pan de mon manteau et vous entraîner dans les belles régions de la prière. Est-ce à Dieu de s'abaisser à vous ? N'est-ce pas vous qui devez vous élever à lui ? Si la raison humaine a si tôt épuisé l'échelle de ses forces en y étendant Dieu pour se le démontrer sans y parvenir, n'est-il pas évident qu'il faut chercher une autre voie pour le connaître ? Cette voie est en nous-mêmes. Le voyant et le croyant trouvent en eux des yeux plus perçants que ne le sont les yeux appliqués aux choses de la terre et aperçoivent une aurore. Entendez cette vérité ? Vos sciences les plus exactes, vos méditations les plus hardies, vos plus belles clartés sont des nuées. Au-dessus est le sanctuaire, d'où jaillit la vraie lumière. Elle s'assit et garda le silence. Sans que son calme visage accusât la plus légère de ces trépidations dont sont saisis les orateurs après leurs improvisations les moins courroucées. Wilfrid dit à M. Baker en se penchant vers son oreille. Qui lui a dit cela ? Je ne sais pas, répondit-il. Il était plus doux sur le Falberg, se disait Mina. Séraphita se passa la main sur les yeux et dit en souriant « Vous êtes bien pensifs ce soir, messieurs. Vous nous traitez, Mina et moi, comme des hommes à qui l'on parle politique ou commerce, tandis que nous sommes de jeunes filles auxquelles vous devriez faire des comptes en prenant le thé, comme cela se pratique dans nos veillées de Norvège. Voyons, monsieur Baker, racontez-moi quelques-unes des sagas que je ne sais pas. Ah, celle de Fritjof, cette chronique à laquelle vous croyez. Que vous m'avez promise, dites-nous cette histoire. Le fils d'un paysan possède un navire qui parle et qui a une âme. Je rêve de la frégate Elida. N'est-ce pas sur cette fée à voile que devraient naviguer les jeunes filles ? Puisque nous revenons à Jarvis, dit Wilfrid, dont les yeux s'attachaient à Seraphita comme ceux d'un voleur caché dans l'ombre s'attache à l'endroit où gît le trésor. Dites-moi, pourquoi vous ne vous mariez pas ? Vous naissez tous veufs ou veuves, répondit-elle. Mais mon mariage était préparé dès ma naissance et je suis fiancée.
À qui ?
Dirent-ils tous à la fois. Laissez-moi mon secret, dit-elle. Je vous promets, si notre père le veut, de vous convier à ces noces mystérieuses. Sera-ce bientôt ? J'attends. Un long silence suivit cette parole. Le printemps est venu, dit Seraphita. Le fracas des eaux et des glaces rompues commence. Ne venez-vous pas saluer le premier printemps d'un nouveau siècle ? Elle se leva, suivie de Wilfrid, et ils allèrent ensemble à une fenêtre que David avait ouverte. Après le long silence de l'hiver, les grandes eaux se remuaient sous les glaces et retentissaient dans le fjord comme une musique. Car il est des sons que l'espace épure et qui arrivent à l'oreille comme des ondes pleines, à la fois de lumière et de fraîcheur. Cessez, Wilfrid, cessez d'enfanter de mauvaises pensées dont le triomphe vous serait pénible à porter. Qui ne lirait vos désirs dans les étincelles de vos regards ? Soyez bon. Faites un pas dans le bien. N'est-ce pas aller au-delà de l'aimer des hommes que de se sacrifier complètement au bonheur de celle qu'on aime ? Obéissez-moi. Je vous mènerai dans une voie où vous obtiendrez toutes les grandeurs que vous rêvez et où l'amour sera vraiment infini. Elle laissa Wilfrid pensif. Cette douce créature est-elle bien la prophétesse qui vient de jeter des éclairs par les yeux, dont la parole a tonné sur les mondes, dont la main a manié contre nos sciences la hache du doute ? Avons-nous veillé pendant quelques moments ? Se dit-il. Mina, dit Seraphitus en revenant auprès de la fille du pasteur, les aigles volent où sont les cadavres. Les colombes voient où sont les sources vives, sous les ombrages verts et paisibles. L'aigle monte aux cieux, la colombe en descend. Cesse de t'aventurer dans une région où tu ne trouverais ni source ni ombrage. Si naguère tu n'as pu contempler l'abîme sans être brisé, garde tes forces pour qui t'aimera. Va, pauvre fille, tu le sais. J'aime ma fiancée. Mina se leva et vint avec Seraphitus à la fenêtre où était Wilfrid. Tous trois entendirent la cigue bondissant sous l'effort des eaux supérieures, qui détachait déjà des arbres pris dans les glaces. Le fjord avait retrouvé sa voix. Les illusions étaient dissipées. Tous admirèrent la nature qui se dégageait de ses entraves et semblait répondre par un sublime accord à l'esprit dont la voix venait de la réveiller. Lorsque les trois hôtes de cet être mystérieux le quittèrent, ils étaient remplis de ce sentiment vague qui n'est ni le sommeil, ni la torpeur, ni l'étonnement, mais qui tient de tout cela qui n'est ni le crépuscule, ni l'aurore, mais qui donne soif de la lumière. Tous pensaient. Je commence à croire qu'elle est un esprit caché sous une forme humaine, dit M. Baker. Wilfrid, revenu chez lui, calme et convaincu, ne savait comment lutter avec des forces si divinement majestueuses. Mina se disait : Pourquoi ne veut-il pas que je l'aime ?